Voici le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Le casse du siècle. Le Tour 2020 entre dans la légende. 31 ans après le duel Fignon-Lemon, un petit jeune, Tadej Pogacar, pulvérise le contre-la-montre hier à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Primoz Roglic, figé, écrasé, s'écroule. Le leader incontesté depuis le début perd son maillot jaune. Des crues comme des vagues d'eau, des torrents de pluie et de boue. Le ciel s'est déchaîné sur le Gard et l'Hérault hier dans les Cévennes. Autant de pluie en quelques heures qu'en une année. Une personne toujours portée disparu. Dans l'actualité encore, 13 500 nouveaux cas de Covid en 24 heures après les laboratoires, les médecins généralistes pris d'assaut. Et puis l'Italie qui vote pour ou contre la réduction du nombre de parlementaires, jour de référendum.
Et puis à 8h20, rendez-vous avec notre invité Éric Orsenna pour son dernier livre « Cochon, voyage au pays du vivant, la mondialisation vue par le prisme du cochon ». Le livre paraît chez Stock.
France Inter.
Il a du mal à réaliser, encore sonné par son exploit. Tadej Pogacar, 21 ans, vient de pulvériser les 57 secondes d'avance du maillot jaune sur l'avant-dernière étape du Tour. Un contre-la-montre éblouissant. Sur le moment, même sa petite équipe met du temps à comprendre quand soudain...
Il franchit la ligne en 5e position.
C'est
le
temps
de
ça.
Un exploit, car le Tour de France était verrouillé tout du long par la Jumbo Visma et son leader Primoz Roglic, slovène d'ailleurs comme le prodige. Le petit jeune Tadej Pogacar, 59 secondes d'avance au général, va donc terminer en jaune tout à l'heure sur les Champs-Élysées. Sur la route du Tour, on retrouve Jérôme Cadet. Bonjour Jérôme.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Même en septembre, le Tour est magique, a tweeté hier soir Emmanuel Macron. On pensait que ce contre-la-montre ne serait qu'une formalité, mais rien n'est écrit d'avance, on devrait le savoir. Jérôme, 31 ans, après un autre coup de théâtre mémorable.
Oui, hier, les plus de 40 ans ont revécu un autre duel de légende, Greg LeMond, Laurent Fignon, juillet 1989. Au matin du dernier contre-la-montre de 24 km, l'Américain compte 50 secondes de retard sur le Français. À l'arrivée sur les Champs-Élysées, il s'empare du maillot jaune pour 8 petites secondes. Fignon est inconsolable, son destin vient de basculer. Il n'est plus l'homme qui a gagné 2 Tours de France, mais celui qui en a perdu un pour 8 secondes. Sa popularité s'en trouvera décuplée. Alors Roglic n'est pas Fignon, à l'arrivée hier, pas de drame, à peine les larmes. Justin, champion hébété, qui donne l'accolade à son vainqueur, retrouve sa femme et son bébé venu assister à son sacre et répond patiemment à toutes les questions des journalistes sur son échec du jour. En 1989, le public se demandait s'il avait assisté à l'effondrement de Fignon ou à l'exploit de LeMond. Hier, les mêmes questions pour Roglic et Pogacar, un peu des deux sans doute. La suite de l'histoire est racontée par Laurent Fignon, qui dira après 1989, on ne fait jamais son deuil d'un événement aussi violent. Au mieux, on parvient à en domestiquer les conséquences psychologiques. Pas sûr que la famille Roglic ne revienne de sitôt à la planche des belles filles.
Ça c'est sûr. Merci Jérôme et merci aussi à Sandrine Malon pour la technique. En tout cas, un podium chamboulé comme ça à la veille de l'arrivée, on n'avait pas vu ça depuis 9 ans. Et sur les Champs-Élysées cet après-midi avec des coureurs qui partent de Mantes-la-Jolie. Tout à l'heure, l'émotion promet d'être au rendez-vous. Tadej Pogacar en jaune donc, mais aussi en blanc, meilleur jeune et à poids, meilleur grimpeur. On se souviendra de ce Tour 2020. Le sport, on y reviendra aussi à la fin du journal.
Des crues comme des vagues et encore une fois, comme au mois de juin, ce sont les Cévennes qui boivent la tasse.
Du Vigan à Saint-Jean-du-Gard en passant par Valrogue ou Anduze, au total une quarantaine de personnes secourues, plus de 400 habitants évacués. 7 mètres en 4 heures, le Gardon sort de son lit. Image impressionnante sur les réseaux hier soir que ce camion emporté par les eaux à hauteur de Massiès. L'Hérault aussi, on l'a compris, déborde. Au Vigan, une automobiliste, une aide-soignante de l'hôpital est toujours porté disparu. Valentin Dunat, vous êtes sur place pour France Inter à Anduze, dans le Gard. La pluie a cessé, le calme est revenu, mais la boue demeure, on imagine.
En effet, les autorités redoutaient une seconde vague de précipitations dans la nuit. Elle n'a pas eu lieu. Le Gardon qui coule à Anduze est très calme ce matin. Et donc, malgré la boue, il est désormais possible de se balader au centre-ville. C'est ce que nous avons constaté tout à l'heure avec Johan, 28 ans.
Il y a quelques heures, là, c'était rempli d'eau. Voilà, même là, on voit la marque, même presque un mètre au-dessus de la normale de la rue.
Ah ouais, donc là, il faut imaginer cette rue où nous sommes, on aurait les pieds jusqu'aux genoux, quoi.
Oui, jusqu'aux genoux, même, j'ai envie de dire, presque au bassin, quoi.
Et ça a baissé, ben là, il y a quasi...
Ça a baissé aussi vite que c'est monté.
Ici à Anduze, une dizaine d'habitants ont dormi dans le collège. Anduze est l'un des secteurs les plus touchés, avec Saint-Jean-du-Gard qui est en aval, où les précipitations ont été encore plus intenses. Dans ce secteur, les précipitations en une journée ont atteint des niveaux jamais vus depuis plus de 50 ans. De quoi rappeler de mauvais souvenirs à certains habitants, comme Didier par exemple.
Là, à Saint-André-de-Valborgne, où j'étais, la montagne jaillissait de l'eau de partout. C'était extraordinaire. Ça a fait d'ailleurs des dégâts dans Saint-André pas mal. Moi. J'ai 73 ans, hein. J'ai connu 58, j'ai connu 2002. Je n'avais jamais vu, par exemple, l'entrée de Saint-Jean qui était bloquée au niveau du restaurant de la Corniche. C'était sérieux.
À 30 km de là, à l'ouest du département, c'est le deuxième secteur le plus touché dans le Gard, vers Valrhoc, Pont-d'Hérault, Le Vigan. Vous l'avez dit, une aide-soignante est toujours portée disparue. Depuis hier, plus de 700 secouristes sont mobilisés. Mais il faut dire que ce matin, un peu partout dans le département, c'est le calme après la tempête.
Valentin Dunat avec Gilles Gallinaro à la technique. Merci à tous les deux en direct d'Anduze, où doit se rendre dans l'après-midi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. L'alerte est donc levée par tous les orages et les pluies partent vers l'Italie. La carte Météo France est tout en vert ce matin. Le dépistage du Covid et les laboratoires pris d'assaut. Le directeur général de l'agence de santé en région parisienne a une solution. Aurélien Rousseau, dans le journal du dimanche, annonce l'ouverture d'une vingtaine de centres pour faire du dépistage PCR, mais aussi du diagnostic. Des centres installés dans des mairies ou des gymnases. La situation à Paris jugée préoccupante encore par le directeur de l'ARS, qui ne parle pas de deuxième vague, mais plutôt de deuxième saison de l'épidémie. Autre solution pour éviter l'embouteillage dans les laboratoires, établir une liste de personnes prioritaires. Préconisation cette semaine du ministre de la Santé, à commencer par ceux qui ont une ordonnance. Résultat, les généralistes sont assaillis à leur tour. Luc Duquesnel est président du syndicat généraliste CSMF.
Depuis vendredi, on a eu en effet bon nombre d'appels qui sont arrivés auprès de nos secrétaires pour avoir une prescription pour un test PCR. Bon, bien sûr, le but, c'est d'éviter d'attendre 3 heures sur un drive où on prend les gens sans rendez-vous, mais il y a de l'attente, pouvoir accéder à des laboratoires où on y accède avec une prescription. C'est aussi tous les gens inquiets, très clairement. Quand c'est quelqu'un qui est juste symptomatique avec une rhino ou de la toux, d'abord, faut voir si ça justifie vraiment un test, mais dans ces cas-là, on voit pas le patient, on laisse au secrétariat. Ce qu'on a aussi, ce sont des personnes qui sont des cas contacts, mais qui n'ont pas été rappelées par la caisse, et donc finalement, ils ont quelqu'un qu'ils connaissent, qui a été positif. Le stress, c'est de savoir, est-ce que je risque pas de contaminer mes parents, quelqu'un d'autre, j'étais en contact avec quelqu'un qui est positif.
Luc Duquesnel, médecin en Mayenne, 13 500 nouveaux cas de Covid en 24 heures pour les chiffres. Annoncé mais sans cesse reporté depuis son élection, le voici le discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme religieux. Le JDD croit savoir que le président fera son discours le 2 octobre avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres à l'automne. On vote aujourd'hui 6 élections législatives partielles dans le Maine-et-Loire, le Haut-Rhin, les Yvelines, le Val-de-Marne, la Seine-Maritime et à La Réunion. Élections aussi grandeur nature, cette fois en Italie, les municipales, les régionales dans cette région sur 20, qui pourrait d'ailleurs basculer à droite, et puis ce référendum national. Pour ou contre la réduction du nombre de parlementaires, le peuple italien très concerné sur cette dernière question. Bruce de Galzin.
C'est le sujet qui depuis des années fait le plus réagir les Italiens. Ils dénoncent la corruption d'une certaine classe politique, alors Lorenzo ira voter et voter pour supprimer des parlementaires.
Il y en a trop, et beaucoup trop d'entre eux font mal leur travail. Donc oui, il faut en réduire le nombre. Mais quand on y pense, 100 millions, c'est 1 euro pour un café.
100 millions d'euros par an de petites économies donc, mais c'est nécessaire selon Maurizio, 22 ans, lui aussi votera pour.
C'est mieux pour nous, parce que s'il y a moins de parlementaires, il y a moins de salaires à verser et moins d'argent gaspillé. Ici, l'école tombe en ruine et personne n'est venu.
La plupart des partis politiques appellent à voter oui pour faire des économies, pour être plus efficace, plus transparent, plus près du peuple également. Ce que dénoncent au contraire les opposants, y voyant surtout moins de représentativité pour les citoyens. Le constitutionnaliste Emanuele Rossi s'inquiète lui pour la suite.
On ne sait pas avec quelle loi électorale nous élirons les prochains parlementaires. Nous ne savons pas comment ça sera appliqué concrètement.
L'Italie passerait de 935 à 600 parlementaires dans la moyenne européenne en nombre, mais comparé à la population, l'Italie aura la plus faible représentativité avec l'Allemagne. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Les États-Unis contre le reste du monde. Cette nuit, dans un communiqué, le secrétaire d'État Mike Pompeo proclame le retour des sanctions de l'ONU contre l'Iran. Il va plus loin, il menace de punir tous les pays qui ne respecteraient pas les embargos en question, avec blocage par exemple de l'accès au marché et aux systèmes financiers américains. Ce n'est pas rien, sauf que ces sanctions contre l'Iran, les Américains sont les seuls à estimer qu'elles sont en vigueur. La Russie, la Chine, la France, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni, tous d'accord pour dire que ce rétablissement des sanctions n'a aucun effet juridique. Et puis Paris rappelle, les États-Unis encore avec l'interdiction de télécharger l'application chinoise TikTok qui devait entrer en vigueur aujourd'hui. Et finalement, Washington accorde un sursis, repousse sa décision au 27 septembre. Entre-temps, TikTok a peut-être trouvé la solution pour sauver sa peau chez les Américains, un partenariat avec les entreprises Made in USA que sont Oracle et Walmart, de quoi régler les problèmes de sécurité soulevés par l'administration américaine. Et puis Paris, qui rappelle son ambassadeur de Côte d'Ivoire, Gilles Huberson, accusé de violences sexistes et sexuelles par au moins 5 femmes. Une enquête administrative est en cours, indique le Quai d'Orsay.
Il est 8h11, à part le Tour de France, dont on a parlé en début de journal. Qu'y a-t-il dans la page des sports? On voit ça maintenant.